au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. En 2008, il reçoit un prix Judith Jasmin pour un reportage sur les réfugiés gays au Canada et est choisi en 2009 pour une bourse Nord-Sud qui l'a amené au Rwanda pour un reportage sur le traitement du VIH. Sa carrière journalistique a débuté en 1983 en Outaouais. Par la suite, après un bref passage à Toronto, il se retrouve à Edmonton. En 2000, il devient correspondant national à la télévision de Radio-Canada à Halifax et terminera sa carrière à Montréal en 2015. L'écriture demeure sa passion et il a publié de nombreux recueils. Avec nous, avec grand plaisir, Denis Martin Chabot. Bonjour.
Bonjour.
Une belle carrière que celle qu'on vient d'évoquer.
Oui, je me rendais pas compte, hein. Faut entendre quelqu'un nous la raconter pour se faire. Ouais, c'est vrai. Non, je fais partie des gens privilégiés qui ont pu obtenir une belle carrière. C'est sûr que je dis privilégié, mais il faut quand même y travailler, hein.
Oui, tout à fait. Mais vous y avez été pendant quoi? 32 ans?
32 ans. 32 ans Radio-Canada, c'est quand même beaucoup, hein, de nos jours. Les gens n'ont plus ces espèces de sécurité d'emploi-là n'existent plus autant que dans le temps. Et je suis content d'avoir fait ça.
Et vous avez fait vos classes comme on les faisait à l'époque, je suis passé aussi par là, où on commençait dans les stations satellites.
Oui.
Vous avez commencé, vous, à Toronto?
J'ai commencé, en fait, à Ottawa. Pendant mes étés, je faisais du remplacement pendant l'été. J'étudiais à l'Université Carleton pendant l'hiver. Et puis, Toronto, c'était tout à fait arrivé par hasard. On cherchait quelqu'un pour nous aider à la couverture d'un congrès politique. Il y avait des élections qui s'en venaient. Et,
Vous avez connu la station sur la rue Carleton.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, puis à cette époque-là, là, c'était pas toujours un endroit. Je me rappelais, je commençais parfois très tôt le matin, là, comme à 4h, 4h30, puis on avait hâte de rentrer au bureau parce qu'il y avait... Moi, je pourrais dire...
La faune de la nuit.
Oui, la faune urbaine qui était intoxiquée. Alors, c'était pas toujours agréable, ouais. En effet.
Et vous alliez dire que vous avez donc été appelé à faire un reportage à Toronto.
Oui, voilà. Alors, j'ai été invité à couvrir d'abord la campagne électorale qui avait mis un terme. Vous vous rappelez, il y avait eu la dynastie des conservateurs pendant 30 ans, qui était au pouvoir. Et puis, on avait élu à ce moment-là un gouvernement minoritaire qui a été défait par la suite, oui. Et c'est les libéraux qui ont gagné.
C'était le gouvernement de Bill Davis qui avait été battu.
Qui avait été remplacé par Frank Miller.
Frank Miller,
et
voilà.
Et c'était la première fois, en fait, là, c'est fou, les réalisations me reviennent, la première fois que les trois chefs des trois principaux partis parlaient tous français. Frank Miller parlait français, David Peterson parlait français et Bob Rae était chef du NPD, oui. Et parlait français. Il y avait même une proposition de débat en français.
Et vous parlez de Toronto, vous parlez de Dave Peterson, ça me rappelle aussi que le correspondant à Queen's Park pour la station de Toronto, était devenu M. Côté.
Guy
Côté, oui. Qui est devenu le conseiller de David Peterson, exact. Pendant de nombreuses années.
Et c'est là que j'ai rencontré aussi Chantal Hébert, qui travaillait pour Radio-Canada aussi à Queen's Park.
On a failli se croiser parce que c'est à peu près à la même époque où je me suis retrouvé à Toronto, peut-être un peu avant ou peut-être un peu après.
Mais vous et moi, on se connaît, mais on n'a jamais travaillé au même endroit en même temps. C'est assez spécial. Hein?
On a passé à peu près dans les mêmes endroits.
À peu près, oui.
Mais c'est très formel. Que ses débuts dans des stations, qui sont quand même des stations d'importance,
oui.
Mais qui nous ouvrent vers une nouvelle réalité.
Oui, alors moi j'ai découvert qu'il y avait des gens qui parlaient français et qui n'étaient pas nécessairement venus au monde au Québec, mais qui habitaient à l'extérieur du Québec. Et ces gens-là ont une culture, ont des choses à dire. Je pense à mon séjour en Alberta où j'ai connu Cristal Plamondon, où j'ai connu des artistes intéressants, des gens intéressants, des auteurs intéressants. Et je pense que ça nous ouvre, nos perspectives. Et puis... on s'ouvre à l'autre, hein, quand on découvre ces choses-là.
Et c'est peut-être là qu'on découvre les uns et les autres. C'est votre premier choix musical, Nicole Croisy. Est-ce associé justement à ce parcours?
Peut-être. Et c'est aussi associé, je pense, à ma façon de voir le monde, où je me dis... tout ce que je fais a un impact sur l'autre et ce que l'autre fait a un impact sur moi. J'ai comme une conscience que je suis pas tout seul dans l'univers puis qu'on doit composer avec les autres.
des autres. Sur terre ils se vautrent, les uns sans les autres. Si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres, écrivait George Orwell. C'est vrai pour il ou elle, ou l'autre, ou l'autre. Hasard, un jour nous sortions du les uns et les autres,
les uns et les autres,
les uns ou les autres,
les uns ou les autres.
Si chacun est l'autre pour l'un, rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours, les appels au secours des autres, des autres.
Nous sommes avec Denis Martin Chabot, que vous avez sûrement vu à plusieurs reprises dans le cadre des téléjournaux de Radio-Canada, que vous ne voyez plus, hélas, parce que vous avez, j'aime pas beaucoup le terme retraite, mais vous avez retraité, si j'ose dire, voilà, dans votre carrière.
J'ai retraité ma vie. Oui. Et ça, c'est une grosse décision à prendre parce que, après tout, je suis parti, j'avais 54 ans, j'en ai 55 maintenant, j'ai vieilli d'un an entre-temps, quelques mois plus tard. Mais effectivement, c'est une grosse décision qui, à mon avis, c'est quand même été réfléchi. Là, on part pas comme ça parce que j'aime le travail. Mais je pense que j'avais fait le tour du jardin et j'avais d'autres défis qui m'attendaient, que je voulais pour moi. Et je me disais, je pourrais rester 4 ans de plus pour aller chercher une centaine de dollars de plus par mois dans ma retraite. Et est-ce que j'aurais été plus heureux avec ça? Je crois pas.
Mais c'est intéressant ce que vous racontez parce qu'il y a bien des gens qui se situent dans ce groupe d'âge et qui se posent la question, que vais-je faire quand je cesserai de travailler? Il faut s'y préparer quand même à ce départ.
Ouais.
Surtout, bon, dans votre cas, 32 ans de vie très active, où au quotidien, vous viviez la pression de l'actualité.
Mm-hmm.
Et là, soudainement, silence. Silence radio, silence télé.
Silence web aussi.
Silence web.
Ouais.
Est-ce que c'est difficile à apprivoiser?
Pour le moment, pas du tout. Il faut dire que c'est assez récent pour moi. Ça fait à peu près 8 mois, là, au moment où on se parle, que j'ai pris la retraite de Radio-Canada. Et ça n'a pas été si difficile que ça au départ parce que je suis un homme hyperactif. Là, je vais admettre certains de mes défauts. Et je me rappelle le conseiller de retraite.
Pourquoi dites-vous défaut? Je fais
ben, je sais pas, parce qu'on m'a déjà reproché que je fais beaucoup, beaucoup de choses. Je suis toujours, je peux pas m'asseoir et m'asseoir dans mon salon avec mes chiens puis me bercer. Là, oubliez ça, ça c'est pas mon genre de retraite. Alors, maintenant, j'en suis rendu à me dire qu'est-ce que je faisais, comment j'arrivais à travailler avec tout ce que j'ai à faire. Je suis plus occupé maintenant que je l'étais quand je travaillais à Radio-Canada.
On entend souvent des gens qui ont cessé de travailler de dire à peu près la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on a aussi parfois mis de côté parce qu'on ne trouvait pas le temps pour le faire ou pour le mettre en œuvre. Et puis là, soudain, ça explose, on veut tout faire, puis on se rend compte qu'encore une fois, on manque de temps.
Mais j'ai même un homme de ménage qui vient chez moi parce que avant ça, je faisais mon ménage moi-même, mais là, je me dis, j'ai plus le temps de faire ça. Et en fait, ce que je vous disais, à un moment donné, avant de prendre la retraite, on est à des conseillers au programme d'aide aux employés à Radio-Canada, le PAE, et puis je parle à un conseiller de retraite, puis bon, on se parle, puis là, à un moment donné, il me dit, je vous entends, puis je me dis, vous, là, je vous dis tout de suite, vous allez trop en faire, vous êtes un hyperactif, je vous dis tout de suite, vous allez le faire, il a exactement raison. En fait, à la fin de mon été, j'étais tellement épuisé, j'étais malade. Un bon gros rhume d'homme, là.
Oui. Et c'est peut-être pour ça que quand on prend la retraite, peut-être qu'Aznavour nous dirait « Me voilà seul ».
Me voilà seul, seul tout à coup. Fallait bien qu'un jour ça se décide. Je n'ai pas su combler le vide qui s'était creusé entre nous. Me voilà seul, c'était écrit. Je n'étais pas facile à vivre. Bien que marié, je m'aimais libre. Alors bien sûr, elle est partie. Je me sens tout bête et tout penaud, planté au milieu de la chambre, ne sachant que faire de mes membres, comme un enfant qui a le cœur gros. Me voilà seul, je l'ai cherché avec mon fichu caractère. Je me demande bien ce que je vais faire à présent que j'ai tout gâché. Les femmes, ça ne nous comprend pas. Je buvais un peu haut, pas d'état, mais même un peu, elle aimait pas. Puis j'avais tous mes vieux copains, c'est vrai qu'ils sont pas toujours très fins, mes copains, mais je les voyais. Elle n'y tenait pas. Me voilà seul dans ce décor, partout où mes yeux se posent. Il y a des souvenirs qui se proposent, comme pour mieux me déchirer encore. Me voilà seul, bien fait pour moi. Le bonheur au fond, ça se mérite. Quand on l'ignore, il fait faillite. C'est alors qu'on se mord les doigts. J'ai des défauts qu'il en a pas. Changer, c'est pas toujours facile. On se conduit comme un imbécile. On se croit très fort, et puis voilà. Me voilà seul, j'ai tout fait pour. Aussi je ne pense pas qu'elle revienne. Je crois que j'aurai beaucoup de peine, car j'ai le cœur crevé d'amour. Voilà seul.
Charles Aznavour, me voilà seul avec nous, Denis Martin Chabot. On n'est pas vraiment seul à la retraite, bien non. Au contraire.
Non, on a beaucoup de choses. Alors, dans mon cas, moi, je me suis consacré d'abord et avant tout à ma passion qui est l'écriture. Ça fait maintenant, depuis 2003, que j'écris des romans. Et là, j'ai finalement été découvert par une maison d'édition majeure qui fait partie du groupe Québécois, qui sont les éditions La Semaine. Et donc, j'ai publié avec eux deux romans. Le dernier est sorti au mois de novembre dernier. Et c'est quand même intéressant d'écrire sur les sujets sur lesquels j'écris, qui sont des sujets donc qui concernent la communauté gay. J'aime pas dire que j'écris pas des romans gays ou lesbiennes ou LGBT, j'écris des romans pour tout le monde. Mais mes personnages sont essentiellement de la communauté et ce que j'aime dire aux gens, c'est que ces gens-là ont les mêmes motivations dans la vie, les mêmes craintes et en fait, ils ont les mêmes peurs parce que c'est la peur motive beaucoup. Alors, ils ont peur d'être seuls, de ne pas être aimés, d'être malades. Mes romans parlent beaucoup du VIH, du sida et ça fait donc partie de cet univers-là. J'ai aussi commencé à écrire des biographies. Et ça, c'est un travail qui est beaucoup plus proche du journalisme. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. J'ai fait, entre autres, vous avez parlé tout à l'heure que je suis allé au Rwanda.
Oui.
Quand je suis allé, j'ai rencontré une femme, une Québécoise du nom de Nicole Pajot, qui avait, en 2004, rencontré des rescapés, des femmes rescapées du génocide lors d'un événement à Edmonton où elle travaillait. Et ça l'a tellement touchée qu'elle s'est sentie interpellée. Elle a eu une vocation. C'est intéressant quand elle me dit ça. Elle a eu une vocation. Elle est partie. Elle a tout laissé derrière à 60 ans pour aller s'occuper de ces femmes qu'elle n'a jamais vues, qu'elle n'a jamais connues. Elle ne savait même pas où c'était le Rwanda jusqu'à temps qu'elle y aille. Et elle s'est occupée de ces femmes-là pendant 7 ans. C'est une belle histoire.
Oui.
Je l'ai écrit, je suis content d'avoir pu le publier, ce livre-là, parce que c'est un hommage pour moi à ce que c'est l'humanité.
Et vous parliez aussi de biographie. On va entendre quelques notes, un petit clin d'œil à quelqu'un qui est déjà venu ici en studio à plusieurs reprises, qui est un ami commun et pour lequel vous avez écrit. Alors, on écoute quelques notes de musique.
Thank you.
Évidemment, on a reconnu la musique de
Richard Abel.
Richard Abel, et vous avez publié la biographie de Richard Abel.
Oui, alors ça, c'est la maison d'édition qui m'a approché. En fait, Richard Abel m'avait approché en premier. Je pense que c'est un ami à lui qui m'avait appelé, parce que on s'était perdu de vue. On s'était connus. J'étudiais à l'Université Carleton à Ottawa, et Richard jouait à Hall, à Gatineau, maintenant, mais à Hall, il faisait un piano bar. Puis je sais pas trop comment c'était arrivé. J'ai donné une émission sur la télévision communautaire. Et Richard avait demandé s'il pouvait pas être invité à cette émission. Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et il m'a tellement fait rire. Il est tellement drôle.
Oui, sympathique, drôle. Je l'ai vu aussi dans un contexte où il était même très drôle lors d'un souper.
Ah oui, il faut pas lui donner un verre de vin. En fait, pas
ouais,
trop.
Mais c'était même pas l'alcool. C'était le plaisir que nous avions d'être ensemble. Et on est en compagnie, entre autres, de Cathy Pimentel, de ma conjointe et d'autres amis. Et ça a été vraiment formidable. Je découvrais un Richard Abel sous un nouveau jour. Et en même temps, c'est quelqu'un d'excessivement sensible.
Oui.
Très sensible à son public, d'abord.
Oui. Richard Abel, je l'ai vu, là. Je suis allé voir un spectacle. C'était quand même essentiel. Quand on écrit une biographie, je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait et s'il me disait la vérité. Parce que Richard, il me dit, moi, il dit, après le spectacle, là, je m'assois puis je rencontre tous les fans jusqu'au dernier qui veulent me parler. C'est vrai. Il le fait.
Oui.
C'est vrai.
Et je le confirme.
et en fait, moi, ce que je trouve incroyable, c'est que derrière son beau sourire, parce qu'il est toujours souriant, Richard, il y a une histoire derrière cet homme-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en dis pas plus, il faut que les gens lisent la biographie. Mais Richard n'a pas eu une enfance facile, il n'a pas eu la vie facile. Il a travaillé très fort pour être reconnu, et c'est pas vrai, c'est pas son gain à la loterie de 700 000 $ qui a fait qu'il est devenu...
C'est sa détermination.
C'est sa détermination. Ouais. Il veut tellement cet homme-là réussir. Et il est tellement généreux. Je pense que moi, ça me fait du bien d'écrire ce genre d'histoire-là, même si c'était pas facile. Il y a des séquences dans le livre que j'ai trouvées difficiles.
Est-ce que ça a nécessité plusieurs rencontres, plusieurs interrogatoires, si j'ose dire, pour tenter de contourner l'ensemble du personnage?
Oui, il a fallu travailler très fort. Puis je le dis, c'est pas un défaut. Richard tient sa vie privée. Mais je lui ai dit, si tu veux qu'on fasse le livre, il faut que tu m'en dises plus que ça. Puis on a travaillé là-dessus. Je vous dirais qu'il y a au moins 30 heures d'entrevue d'enregistrer, sans compter tout le temps qu'on a passé ensemble, lui et moi, sa mère, ses amis, les recherches. Et quand j'ai écrit le texte, je voulais qu'on est co-auteur, je voulais qu'il m'assiste dans tout ça. Puis, avec son bon sens de l'humour, il y a un soir, j'ai dit, si t'arrêtes pas, je vais te mettre du ruban de plombier sur la bouche pour que t'arrêtes de me conter des blagues. Faut qu'on finisse, là.
Et il faut établir ce climat de confiance mutuelle.
Ouais.
À partir du moment où c'est établi, ben, c'est presque gagné.
Oui. Mais j'ai trouvé qu'il a tellement été généreux. J'ai tellement aimé écrire ça.
Présentez-nous votre prochain choix, qui est un choix qui rappelle un film dont j'oublie le titre, et ça va peut-être me revenir en cours d'émission. C'était La Diva, voilà.
Oui, La Diva.
Vous vous souvenez?
Oui.
Alors, on entendait beaucoup cette chanson.
Oui, et qui me rappelle une période de ma vie quand je vivais à Toronto. C'était très gros à ce moment-là, Diva, puis ça jouait partout.
Alors, l'air d'Alfredo Catalani, qui est La Wally.
La Wally.
Et interprété par...
Oh, là, j'ai pas mes lunettes.
par la grande, la très grande Maria Callas.
Callas, excusez-moi. J'essaie de relire mon texte ici. Puis...
Alors, La Wally de Luigi Illica, Alfredo Catalani, Maria Callas, et on poursuit après la pause.
Thank you.
retour à l'émission Au gré du temps avec nous, Denis Martin Chabot, journaliste à la retraite. Mais je sais que vous n'aimez pas le terme de retraite.
Non, ça ne me dérange pas. Mais en fait, je fais encore du journalisme. Hein. Je travaille avec France Dauphin, les productions France Dauphin, oui. Qui est une ancienne réalisatrice de Radio-Canada. Et nous travaillons présentement sur un documentaire qu'on veut sortir au mois d'août 2017, qui s'appelle « Les deux villages ». Et c'est l'histoire de deux hommes qui arrivent à Montréal à deux périodes différentes dans le village à Montréal et comment le village a été leur refuge. Et j'ai hâte de pouvoir présenter ça parce que c'est des histoires très touchantes.
Pour vous, c'est important cette reconnaissance finalement de cette réalité qui est celle de l'homosexualité, ou deux êtres, finalement, qui s'aiment, oui. Quel que soit le sexe. Et ça, c'est important.
Oui, parce que je pense que moi, j'en ai souffert beaucoup de ça. Je vais reprendre les mots de Michel-Marc Bouchard, qui dit que la première chose qu'un homme gay apprend dans la vie, c'est à mentir. Et j'ai passé une partie de ma vie à cacher qui j'étais, à mentir aux gens, à raconter des histoires qui m'arrivaient pas, pour ne pas raconter ce qui m'arrivait à moi. Et je pense que ça fait de nous des êtres qui... j'aime pas dire ça comme ça, mais c'est sûr qu'il y a un certain malheur dans notre vie qui arrive avec ce genre, parce qu'on peut pas passer toute une partie de sa vie à mentir et être heureux de ça. Et vous savez, je suis un journaliste, moi je dois dire la vérité. Et à ce moment-là, toutes les fois qu'on parlait de ma vie privée, je mentais.
Oui. Et là, on est en conflit avec soi-même.
Oui.
On est aussi à vivre un paradoxe, c'est-à-dire, je dois, par mon travail, m'en tenir à des faits, à la vérité, et pourtant, quand je m'expose comme individu, je suis un menteur.
Oui.
Et c'est là tout le paradoxe.
Et la journée où j'ai décidé que c'était assez, et la journée que j'ai décidé d'aller de l'avant et de dire, ben, je suis ce que je suis, c'était une libération incroyable. Et c'était aussi le moment où je suis allé beaucoup plus loin. J'avais un conjoint à l'époque qui commençait à avoir des problèmes de santé. Ce n'était pas le sida, là, parce que c'est pas ça du tout, c'était autre chose. Et je voulais pouvoir lui donner accès aux bénéfices auxquels j'avais droit. Et là, quelle a été ma surprise de me rendre compte que non, c'était pas possible. Alors j'ai levé un grief et j'ai fait ce que je pensais qu'il fallait être fait. Je me disais, je suis un employé permanent, on pourra pas me mettre à la porte pour ça. Est-ce que ça me nuit? J'ai quand même réussi à gagner ça. J'ai gagné la caisse de retraite et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui a nuit à ma carrière? Probablement. Mais dans la vie, on ne pense pas non plus qu'à ça. Il faut penser à ce qui est plus important au bout du compte.
Il y a parfois des batailles, quelles qu'elles soient. Vous venez d'en évoquer une, mais il y a des batailles pour lesquelles on se sent interpellé.
Oui.
Et où on se dit, ça va me prendre de l'énergie, mais je n'ai pas le choix parce que c'est tellement important. C'est une question de justice, bien
oui.
souvent.
Oui, et encore une fois, je me dis comment moi, comme journaliste, et surtout ceux qui me connaissent savent que j'ai été un journaliste qui a beaucoup travaillé sur les questions sociales, d'égalité, de justice. Alors comment moi, je pourrais me justifier à aller me cacher dans mon trou parce que j'ai peur de me lever contre mon employeur alors que je suis un employé permanent et ils peuvent pas me mettre à la porte parce que je fais ça, parce que j'ai peur qu'on me reconnaisse, j'ai peur de m'identifier. Je peux pas réconcilier ça. Et de toute façon, c'était la bonne chose à faire, alors je l'ai fait.
Édith Piaf et oui. Malamour,
pourquoi? Encore une fois, ça me représente beaucoup parce que je suis un grand dépendant affectif. Et je pense que cette chanson-là, c'est vraiment la dépendance affective qui ressort, j'irais jusqu'au bout du monde. Je te décrocherai la lune. Je ferai tout pour toi. Ça me représente.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes. Je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins. Tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes.
jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi,
ce choix de l'hymne à l'amour chanté par Édith Piaf, proposé par Denis Martin Chabot, qui est avec nous, avec grand plaisir. Vous avez mentionné tantôt que c'est important de faire certaines batailles quand on les sent justes. Vous avez dit que vous avez aussi peut-être un peu souffert dans votre travail, de votre situation. Mais quand on remonte dans le temps, si on revenait à l'époque de l'enfance, vous avez été aussi victime d'intimidation. Oui. Et ça vous a profondément marqué.
Pierre, moi, je pense que c'est la première fois que j'en parle aussi ouvertement en public, parce que c'est pas quelque chose que j'étais prêt à partager jusqu'à tout récemment. Et je me suis dit, on regarde une petite gêne quand on est journaliste. J'aime pas devenir la nouvelle. Mais maintenant, je me dis, j'ai un petit peu de notoriété. Et si je ne parle pas, j'aide pas les plus jeunes qui, eux, vivent ça.
Et Dieu sait que c'est important d'en parler.
Ça a été terrible dans ma vie. J'ai combien de fois dit à maman, je peux pas rentrer à l'école aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Je suis pas bien, j'ai mal au cœur. Parce que je pouvais plus faire face à ça. Cette année, l'année dernière, je devrais dire, je suis allé pour la première fois de ma vie au retrouvailles de mon école secondaire. Donc, plus de 35 ans après ma graduation. Et je suis allé, je vais essayer de la compter assez rapidement. J'étais au Salon du Livre de Québec et une ancienne de l'école avec qui j'ai gardé contact, Dominique, me présente Louise. Puis Louise a dit, j'organise l'année prochaine les retrouvailles. Est-ce que tu viendrais? T'es jamais venu. Et là, je lui ai dit, écoute Louise, moi, l'école secondaire, c'est vraiment pas un bon souvenir dans ma vie. Combien de fois j'ai embrassé les casiers parce qu'on me poussait dedans? Combien de fois je me suis ramassé à terre? Combien de fois j'ai rien mangé parce que mon lunch, on le garochait à la poubelle? Combien de fois j'ai été humilié? Puis ça me tente pas de revoir François un tel, je mettrai pas son nom de famille pour François, et puis d'avoir à faire face à sa maudite grosse facelette qui m'a tellement fait... Excusez-moi, je devrais peut-être pas dire ça à la radio, mais je vais le dire, elle m'a tellement fait chier. Je pense que c'est vraiment ça l'expression. Puis elle me dit, c'est parce que c'est mon mari. Je me trouvais mal, mais avant ça, je me dis, ben, garde, il fallait que ça sorte. Et je suis allé, donc, cette année, puis je vais vous dire, j'étais à Trois-Rivières, au Salon du Livre de Trois-Rivières, puis là, je conduisais, je m'en allais à Québec, puis j'arrêtais à peu près à toutes les trois sorties pour aller faire pipi.
La nervosité, vous habitez j'avais peur.
J'ai 55 ans, j'en avais 54 à l'époque. J'avais peur de ça. Quand je l'ai vu, je suis arrivé à la salle, quand je l'ai vu, je pensais que j'étais pour vomir tellement j'étais mal. Il s'est excusé, parce qu'évidemment, Louise lui a parlé, et j'ai pas été capable de pardonner. Et je lui ai dit, écoute, je vais passer, un jour, je passerai au travers de ça, mais je lui ai dit, c'est parce que j'ai vécu avec ça pendant tout ce temps-là. Et je veux pas le culpabiliser pour le restant de ses jours, c'était pas ça l'idée, mais c'est facile de s'excuser quand t'as pas souffert avec ça. Mais je regarde ça maintenant, puis je pense que si je le revois en 2017, oui, c'était plus lui qui était le bourreau dans ma vie, c'était moi-même.
Oui, et on pourra revenir justement sur la notion de pardon, parce que vous venez de dire peut-être la phrase la plus porteuse à l'égard de vous-même. Mais on va se permettre une chanson de Lucille Dumont, qui peut-être pas de circonstances, mais qui peut-être pourrait ramener, faire en sorte que le pont puisse lever au-dessus de la rivière qui vous a séparés tous les deux. La chanson pour titre « Les bons copains ».
On reste bon copain, ça c'est entendu. Donne-moi la main et n'en parlons plus. Pas de cris, ni de larmes, ni de sanglots longs. Fini le coup du charme et des violons. On s'est bien aimé, moi je t'aime encore. Mais je vais plus me pâmer dans le corps à corps. Mais si tu le veux, on peut encore se voir et prendre un verre un soir ensemble dans un bar. Mais entre bon copain, ça c'est entendu. Donne-moi la main et n'en parlons plus. Pourtant, je me rappelle, c'était comme hier. Moi, j'étais très belle, t'en étais très fière. On a fait l'amour dès le premier soir. Ça se fait pas toujours, mais on vous laisse savoir. On a su tout de suite ce qu'est le paradis, celui que l'on cite quand on est petit. Pour de ces prières, c'est bien mieux à deux. C'est la seule manière de croire au bon Dieu. Ne fais pas cette tête, rentre à la maison. Demain, c'est ta fête, t'as l'âge de raison. Je t'avais prévenu, mais tu ne croyais pas que le même menu à chaque repas. À la fin, ça lasse et ça vous fait mal. Et l'amour se casse comme du cristal. Mais si tu le veux, on peut encore se voir et prendre un verre un soir ensemble dans un bar. Mais entre bon copain, ça c'est entendu. Donne-moi la main et n'en parlons plus. Pourtant, j'étais ta Lucrèce, t'étais mon Borgia. Je fus ta maîtresse dans les hortensias. Tu m'avais élevé sur un piédestal, tu m'aurais enlevé même sans cheval. Une après de toi, c'était comme un été, un rêve qui devient une réalité. Pourquoi faut-il que ça casse toujours au moment où un âge passe dans votre roman? Je t'aurai toujours dans un coin du cœur, car un grand amour jamais seul meurt. Alors bon copain, ça s'est entendu. Donne-moi la main et n'en parlons, donne-moi la main et n'en parlons, donne-moi la main et n'en parlons plus.
Les bons copains, Lucille Dumont avec nous, Denis Martin Chabot, on parlait d'intimidation. Vous disiez que ça avait été difficile que de pouvoir pardonner, mais est-ce que le pardon, dans le fond, ce n'est pas une libération à l'égard de soi-même?
Oui.
Quand on pardonne, on se libère soi-même d'un énorme fardeau.
Voilà. Puis je pense que la bonne expression qu'on doit dire, c'est qu'on pardonne. Je pense que pardonner, c'est de laisser aller ce qui nous fait mal. Et ça ne veut pas dire qu'on oublie pour autant. Puis je vais vous dire, je suis pas tellement dans le judéo-chrétien dans ma vie, mais je sais que j'ai une station de radio quand même avec une certaine notion, mais. Pour moi, je pense que je serais fou là, d'oublier tout ça parce qu'on peut pas oublier. Puis je pense qu'on recommencerait les mêmes erreurs. Mais j'ai été mon propre bourreau parce que tout le reste de ma vie, j'étais jamais à la hauteur. J'avais pas vraiment confiance en moi. Je l'ai pas plus maintenant, mais au moins j'en suis conscient. Alors quand je vois que je fais des choses où je répète des certains patterns, je dis non, Denis, c'est parce que t'as pas confiance en toi, ça veut pas, c'est irrationnel. Est-ce qu'un jour je vais passer outre ça? Je pense qu'à l'âge que j'ai, ça va être difficile de changer qui je suis. Mais oui, les gens nous voient à la télévision, ils nous voient, les journalistes, on a l'air vraiment de savoir puis d'être en toute possession de nos moyens. Si les gens savaient seulement qu'à tous les jours, j'étais sur le coin du précipice, là, juste sur le bord, puis il n'aurait pas fallu qu'on pousse trop fort pour que je tombe. Et
On reste des êtres humains. Oui. Et ce que vous évoquez, même si vous dites que vous êtes pas très judéo-chrétien, il en demeure pour moi que ce sont là des valeurs très chrétiennes, oui. Fondamentalement chrétiennes. Le pardon, le fait de pouvoir se reconnaître soi-même aussi, oui. Hein, s'aimer soi-même, aimer son prochain, c'est pas toujours facile à appliquer, mais on peut y parvenir à travers des épreuves. La vie n'est pas facile,
non.
Mais la vie est fondamentalement belle malgré tout. Ne croyez-vous pas?
Oui, puis elle vaut la peine d'être vécue. Elle vaut la peine d'aller jusqu'au bout.
Même quand vous vous sentiez au bord du précipice?
Ben, quand je dis au bord du précipice, c'est que j'avais toujours peur de me tromper. J'avais pas confiance dans mon travail. Et puis, je voulais tellement réussir. Et là, c'est un peu là où vient tout le problème. Comme homme gay, je me disais, ben, si je veux que les patrons me reconnaissent, si je veux que les patrons me donnent de l'avancement, il faut que je sois bon. Et non pas rien que bon, il faut que je sois meilleur que tout le monde. Imaginez, Armand, là, le nombre d'heures que je mettais à travailler pour me préparer, pour être bon. J'en faisais à la maison, j'en dormais pas la nuit. Vous savez, on peut pas continuer ce rythme comme ça toute sa vie. Et un jour, j'ai frappé un mur. Et là, je me suis dit, OK, on arrête ça. Ça prend un plan B. C'est pas facile pour moi de parler de ça parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ouvre beaucoup, mais je me dis, si je le dis pas au moins une fois publiquement, parce qu'il y en a tellement des gens comme moi, oui. Il y en a plein de ces gens-là.
Et qui vont se reconnaître.
Ouais.
C'est très libérateur.
Mon ex me disait que j'étais un workaholic, puis c'était maladif, puis je pense que même si j'étais fâché pour lui, contre lui, parce qu'il me laissait à cause de ça, ça c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup dire, mais il avait raison. Et je pense que je serai toujours un hyperactif, mais maintenant, j'essaie de reconnaître est-ce que je le fais pour moi ou je le fais parce que je veux qu'on m'aime? Ça aussi, c'est pas sain. Puis je reconnais que j'ai pas eu une vie saine dans le passé, même si ça m'a permis d'accomplir bien des choses. Maintenant, je me dis, c'est le temps de retraiter ma vie et j'essaie de faire des choses où c'est beaucoup plus positif, là.
Mais vous seriez apte à dire aujourd'hui qu'il y a des moments si merveilleux?
Ah mon Dieu, cette chanson-là vient chercher beaucoup de choses chez moi. C'est une chanson que ma mère aimait beaucoup, puis on lui a fait jouer lorsqu'elle est morte à ses obsèques.
Il y a des moments si merveilleux qu'on voudrait que le temps s'arrête, que les horloges de cet lieu se taise un peu, se taise un peu. On cherche, cherche émerveillé la petite fleur de l'impossible. Sitôt que tu l'as dans la main, elle est fanée le lendemain. Il y a des soirs si malheureux qu'on voudrait que le temps éclate, où l'on fait semblant d'être deux dans l'illusion d'un coin de bleu. Éteins les mille chandeliers, tu restes seul sous les étoiles. Ton téléphone est sourd-muet, ton petit théâtre et fermé. Il y a des matins si fabuleux qu'ils ressemblent aux cathédrales. Tout est si beau, tout est si mieux que l'on voudrait mourir un peu. Alors voici que dans ta main la petite fleur de l'impossible se met à renaître soudain. Il y a de fabuleux matins. D'arc-en-ciel où l'univers stoppe sa course. Une simple nuit de Noël
te mets des larmes à fleur de ciel. Et tu te demandes pourquoi cette nuit-là te démesure. Va, ne cherche pas plus longtemps, l'homme ne reste qu'un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Un enfant. Un
Denis Martin Chabot, vous écoutiez Gilbert Bécaud avec beaucoup d'émotion parce que ça évoque la maman.
Mm-hmm.
Le temps nous bouscule un peu. On va peut-être devoir vous inviter la semaine prochaine pour ouvrir davantage. Okay. On pourra parler du contexte familial aussi. Mais juste un mot sur cette chanson qui, pour vous, a vraiment là, une charge émotive importante.
Oui. Maman n'a pas eu une vie facile, et puis lorsqu'elle est morte, elle est décédée d'un coup, elle a fait un infarctus massif qui l'a emporté, et puis j'ai toujours trouvé, elle a toujours dit, maman, la vie a été injuste pour moi parce que j'ai pas eu une si grande vie, une si bonne vie que ça, puis je sais pas, cette chanson-là semble lui dire, non, il y a quand même des petits moments que t'as pas, que tu vois pas, puis c'est pas si, c'est les petites choses qui vont te rendre heureuse, et... Non, ça vient me chercher à chaque fois que je parle parce que maman, ça fait 5 ans qu'elle est partie, puis c'était, pour un homme, la mère, c'est important.
Et si vous aviez à résumer en quelques mots ce qu'a été votre mère pour vous?
Ma confidente, ma plus grande amie, la personne qui m'a toujours fait confiance, même quand moi je ne me faisais pas confiance, et qui m'a aimé quand moi je ne m'aimais pas. C'est important, ça.
Diriez-vous que c'est probablement parmi les personnes les plus importantes de votre vie?
Certainement.
Oui. Ben, Denis Martin, merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. On poursuit la semaine prochaine?
Certainement.
Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Pierre Degagné. Émission animée et réalisée par celui qui vous parle, Armand Dubois. On va se quitter, Denis Martin, avec un thème... qui va peut-être nous permettre de méditer sur tous vos propos. C'est la musique d'Iroko Kokubu. Vous allez voir, c'est très, très joli. Et le temps de dire aussi à l'auditoire de rester à l'antenne. De belles émissions vont suivre. Et nous, on sera de retour la semaine prochaine en compagnie de notre invité. Au plaisir, au revoir. Thank you.
Thank you.